Alexandre Beaupré-Lavallée, professeur en administration de l'éducation à l'Université de Montréal, est avec nous pour sa chronique éducation. Il y a du bruit derrière vous, cher Alexandre.
Est-ce qu'il y en a encore?
Là, ça va mieux.
Ça va mieux, ouais. Excusez-moi, oui. J'avais un ventilateur au visage parce qu'il fait chaud ici. Que personne ne dise qu'à l'Université de Montréal, nous ne sommes pas adéquatement chauffés.
Bon, alors, ce n'était pas le ventilateur qu'on entendait, mais plutôt des bruits d'humains qui parlaient derrière vous, qu'on entend encore d'ailleurs. Alors, vous allez aujourd'hui nous commenter une lettre d'Hugo Cavenaghi ainsi que d'Isabelle Sénécal ou Sénécal.
Sénécal, effectivement. C'est une lettre qui a été publiée vendredi dernier dans la presse et sur le site de la presse. Et vous savez, d'habitude, je vais aller chercher des lettres d'opinion, des articles qui sont très détaillés ou qui proviennent de personnes qui sont connues comme Normand Baillargeon, Claude Lessard ou ces gens-là. Mm-hmm. Mais là, ce qui est intéressant avec cette lettre ouverte qui s'appelait « Et si on s'attaquait à la cause », qui est la réponse de M. Cavenaghi et de Mme Sénécal aux 7 priorités du ministre de l'Éducation.
Cavenaghi ou Cavenaghi? C'est G-H-I.
Cavenaghi. Oh, Cavenaghi. Je ne sais pas, je vais lui demander. En fait, je vais l'appeler, je vais lui demander. C'est le premier président directeur général du Collège Sainte-Anne, qui est un collège privé à la Chine d'Orval et Outremont. La deuxième est directrice en tant que telle du collège préscolaire primaire et secondaire à d'Orval. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont deux personnes qui, à ma connaissance, n'ont jamais écrit de lettres ouvertes ou d'opinions.
Ça veut dire qu'elles avaient quelque chose à dire, là, il fallait que ça sorte.
Exactement. Et la deuxième, c'est que c'est relativement court, c'est relativement droit au but, et ça ne se perd pas dans les fioritures dans lesquelles d'autres peuvent se perdre. C'est plus un cri du cœur ou un appel au pied, plutôt qu'une longue dissertation universitaire ou idéologique. Et leur point est bien simple, c'est que tout ce qu'on entend depuis plusieurs années pour améliorer l'école, ça s'intéresse aux pourtours de l'école, ce qu'ils appellent les pourtours de l'école, les services, les programmes, les gens ou les ressources. Et leur argument, c'est qu'on devrait s'intéresser au cadre de l'école, là je cite, la pédagogie, l'apprentissage, l'enseignement et l'évaluation, fin de la citation. C'est bizarre, je vais nuancer parce que c'est vrai et faux. Il est vrai qu'on s'intéresse énormément à des questions très structurelles. Et j'en ai déjà parlé dans cette chronique, à trop s'intéresser à la structure, on en oublie les humains. Et on en oublie la relation qui est dans l'école, qui est une relation de développement. De l'autre côté, on parle énormément d'évaluation d'enseignement et d'apprentissage. Peut-être que c'est pas aussi évident parce que ça ne fait pas l'objet de toutes les lettres d'opinion parce que c'est pas super sexy. Mais chaque fois qu'on parle de programme, chaque fois qu'on parle de réussite à des examens, on parle d'évaluation, on parle d'enseignement, on parle de curriculum. Sauf que ce qu'ils amènent, c'est justement que au niveau des écoles, les gestionnaires, leur opinion, c'est que les directions d'établissement n'ont pas l'impression qu'elles ont, je cite, le luxe de s'intéresser à la pédagogie car ils ont trop de problèmes d'apprentissage, de comportement et de motivation à gérer. Il est là le cœur du problème qu'ils soulèvent. Et c'est ce que je voulais mettre en valeur dans cette lettre ouverte, c'est que leur objectif est non seulement noble, mais même s'il a besoin de nuances, ils ont tout à fait raison. On oublie les gestionnaires, on oublie le leadership pédagogique, on oublie ultimement la mission de l'école et on se concentre énormément sur les structures ou sur les résultats. Ensuite, ils parlent du fait qu'il y a plusieurs systèmes scolaires qui performent mieux que le Québec en termes de réussite et de diplomation parce qu'ils encadrent davantage l'enseignement et l'évaluation. C'est à nuancer, mais c'est pas faux non plus. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que ils donnent l'exemple de l'Ontario, qui réussit, dont le taux de diplomation est meilleur qu'au Québec, et c'est vrai, dont le développement des compétences globales les compétences globales sont meilleures qu'au Québec, et c'est vrai. Ils disent que ça s'est fait en s'appuyant sur des pratiques probantes et le développement professionnel des enseignants. L'Ontario a écrit le concept de pratique probante, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de s'inspirer de ce qui se fait mieux ailleurs, on s'inspire de ce qui se fait en Ontario, souvent, parce que ça ont été les premiers à essayer de normaliser les pratiques. Donc, ils ne se sont pas basés sur les pratiques probantes. L'Ontario, ils ont écrit les pratiques probantes. Ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, ils vont parler, ils donnent l'exemple de l'Ontario, ils parlent de l'encadrement des pratiques en enseignement, en évaluation, etc. C'est vrai qu'il ne faut pas parler de structure, ils ont raison, mais une des raisons qui a été démontrée du plus grand, de la plus grande réussite globale en Ontario, c'est l'absence d'un système à deux vitesses. En même d'un système à trois vitesses.
Ouais.
Parce que les écoles privées ne sont pas financées en Ontario et les écoles publiques offrent très, très, très peu de programmes particuliers, de programmes particuliers comparativement au Québec. Donc, je trouve intéressant qu'un PDG et une directrice des études d'un collège privé citent en exemple l'Ontario pour la réussite, alors qu'une des raisons de la réussite en Ontario, c'est l'absence d'établissements tels que le leur. Mais c'est intéressant. Ils mettent également beaucoup l'accent sur le développement des enseignants, l'encadrement des enseignants, le soutien aux enseignants. Ce sont toutes des tâches qui sont supposées revenir aux directions d'établissement, et j'en reviens à leur premier point. Les directions d'établissement au Québec sont débordées par d'autres tâches que leur première tâche, qui devrait être le leadership pédagogique. Mm-hmm.
Donc, ça fait partie des priorités de Bernard Drainville, offrir du renfort aux enseignants dans les classes?
Oui, mais c'est vrai, mais ce n'est pas... C'est d'offrir du renfort, c'est que ça va être laissé au, ce que je crois qui est leur point dans l'article, sinon je vais en faire mon propre point, c'est qu'en laissant aux différents centres de services scolaires le choix de la forme du soutien, on va seulement renforcer les pratiques qui existent déjà. Il n'y a pas un centre de services scolaires qui va ouvrir les yeux demain matin pour dire « Nos directions d'établissement font trop de paperasse, trop de bureaucratie, ils devraient plus être sur le terrain en train d'encadrer leurs étudiants, en train d'encadrer leurs enseignants. On va arrêter de payer des centaines de conseillers pédagogiques, puis on va plutôt donner plus de marge de manœuvre aux directions. » Si une commission, un centre de services scolaires ne le fait pas, vous voyez, ça fait très longtemps que c'est rendu centre de services scolaires, j'ai encore de la difficulté. En ne ciblant pas la relation apprenant-enseignant et la relation enseignant-direction comme les relations principales sur lesquelles intervenir, puis en restant sur « on va envoyer un chèque pour des structures de soutien », mais on va juste renforcer ce qui existe déjà, ce qui fait que ce qui marche déjà bien va continuer à bien fonctionner, même aller mieux, et ce qui va mal va continuer de mal aller et risque même d'aller pire. On peut réécouter toutes les chroniques que j'ai faites depuis que je suis à l'émission, je suis vraiment pas en faveur d'un système mur à mur et d'un système homogène normalisé pour tout le monde, mais il faut admettre que si on est pour parler de pratiques probantes et de données probantes, une des bonnes pratiques, je déteste ce terme-là, mais entre chevrons qui existe, c'est effectivement une direction qui est très engagée dans le soutien pédagogique pour ses enseignants. Il y a des centres de services scolaires pour qui les directions sont des patrons en situation d'autorité qui font du contrôle administratif. Et même si ça en prend, ça ne peut pas être que ça. Et ce qu'appelle M. Kavinagui et ce que Mme Sénécal aussi appelle, c'est que les gestionnaires des établissements se donnent le luxe de s'intéresser à la pédagogie et non seulement aux affaires administratives. Et en ce sens, ils ont tout à fait raison.
Oui. Et ce matin, je ne sais pas si vous avez eu la une du Journal de Montréal, 4000 profs ont déserté nos écoles, une vague de démissions. Puis il y a un professeur qui résume pas mal ce qu'il en est. J'étais fière d'enseigner, c'est quand même une belle job, mais c'est juste trop demandant.
Oui, ça c'est ce matin, il y a une série d'articles intéressants, parce que c'est l'article dont on parle aujourd'hui, j'ai choisi dimanche, mais ce matin, il y aurait eu matière à faire, ou demain ou cette semaine, il y aurait matière à en faire d'autres, sur ce qui est sorti ce matin, notamment, il y avait la question de l'exode, on va commencer à appeler ça un exode, dans la profession enseignante, et la question des collèges anglophones, des cégeps anglophones qui sont en pleine cacophonie pour essayer de s'adapter aux nouvelles exigences de la Charte langue française.
Il y a beaucoup de choses à dire.
Sujets bien intéressants.
Oui.
Tous des sujets bien intéressants à surveiller au cours des prochaines semaines.
Merci beaucoup, Alexandre Beaupré-Lavallée. On espère vous retrouver très bientôt, la semaine prochaine.
Merci beaucoup, Hélène. Bye. Au revoir. Merci.